de santé 88.4.
millions, c'est approximativement le nombre de fumeurs en France. Entre 18 et 34 ans, près d'une personne sur deux fume. Tel est le constat réalisé par le ministère de la Santé. Alors peut-être que certains d'entre vous ont la volonté d'arrêter. Et ça tombe bien, j'ai rencontré pour Enjeu de Santé le docteur Debournonville, médecin tabacologue au CHU de Rennes. Elle nous éclaire sur différents aspects de la consommation du tabac et de son impact sur la santé. En commençant par nous présenter le rôle d'un tabacologue.
Alors, un tabacologue, moi, comme tabacologue, j'aide les gens à arrêter de fumer. Ça, c'est mon premier travail. Après, j'ai aussi une activité de formation par rapport à mes collègues médecins, par rapport aux écoles paramédicales ou par rapport à d'autres professionnels, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine social, qui souhaiteraient élargir leurs connaissances sur tout ce qui est le tabac, la dépendance tabagique et l'aide à l'arrêt du tabac.
Si on parle de la cigarette, on entend souvent de nombreuses choses sur la composition d'une cigarette, comme quoi il y aurait du goudron, de l'ammoniac, différentes choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans une cigarette ?
Alors, on apprend ça à l'école maintenant, il y a plus de 4000 composés dans la fumée de cigarette, dont certains, par exemple, sont des carcinogènes directs. Si on veut simplifier, je dirais qu'il y a quatre catégories de composants dans la fumée de cigarette. Il y a les composants qui rendent dépendants. Le plus connu, c'est la nicotine. Il y a probablement d'autres composants. Il y a très certainement d'autres composants qui vont au moins renforcer la dépendance à la nicotine, et notamment des substances comme l'Arman ou le Norarman qui ont des propriétés antidépressives. Ce qui explique d'une part l'usage parfois antidépresseur que les fumeurs font de la cigarette, et d'autre part la crainte parfois justifiée d'avoir un moral qui flanche à l'arrêt du tabac, et on peut voir effectivement des dépressions à l'arrêt du tabac. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième, c'est tout ce qu'on peut appeler goudron. Alors, goudron, c'est ce qu'on appelle la phase particulière, c'est-à-dire non gazeuse de la cigarette, dans, où vous enlevez la nicotine. Voilà, donc c'est une espèce de produit qui va se déposer sur sur le filtre, si vous voulez, de la cigarette. Et dans le goudron, c'est une espèce de sac où vous mettez plein de choses, et dedans vous avez là effectivement des composés qui ont une responsabilité dans les cancers liés au tabac. Troisième catégorie, le monoxyde de carbone, je dirais, c'est une composante à lui tout seul. C'est un gaz inodore, incolore, qui est un produit de combustion de la cigarette, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du monoxyde de carbone, il faut que la cigarette soit allumée. Enfin, en général, c'est comme ça qu'on la consomme. Et le monoxyde de carbone, c'est à la fois indirectement celui qui vous prive d'oxygène, puisqu'il est concurrent de l'oxygène. Et c'est également un toxique direct des cellules, et en particulier des cellules qui recouvrent, qui tapissent par exemple la muqueuse bronchique et qui tapissent aussi les parois des artères. Quatrième, les irritants, par exemple l'acroléine, par exemple le formaldéhyde. Donc ça, c'est des produits qui sont des agresseurs de la muqueuse respiratoire, qui vont participer au risque respiratoire de la fumée de tabac, tout ce qui est bronchite chronique, bronchopathie chronique obstructive, on appelle ça BPCO nous, qui vont conduire à des états d'insuffisance respiratoire chronique ou d'essoufflement non réversible, c'est-à-dire que si on arrête de fumer, la maladie, elle est toujours là.
Vous avez un peu parlé des impacts que pouvait avoir la cigarette sur notre métabolisme. Quels sont, on va dire, peut-être pas une liste exhaustive, mais quelles sont les maladies liées à la consommation de tabac ?
Je vais distinguer les trois grandes catégories de maladies qui font mourir du tabac et le reste. Premièrement, les cancers, bien sûr, c'est ce qu'on connaît le mieux, et en particulier ce que tout le monde appelle le cancer du fumeur, qui est en fait le cancer bronchique ou bronchopulmonaire. Ça, c'est la première chose, mais il faut savoir aussi que le tabac est responsable d'autres cancers, et en particulier le cancer de la vessie. Il y a pratiquement chez l'homme la moitié des cancers de la vessie qui sont liés au tabac, tout simplement parce que les composés de la fumée de tabac qui passent dans le sang sont filtrés par le rein et ils vont stagner dans la vessie où il va avoir une action cancérigène. Chez la femme, le cancer du col de l'utérus est un cancer qui est augmenté, dont la prévalence est augmentée par le risque est augmenté par l'exposition à la fumée de tabac. Deuxième catégorie, les maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, angine de poitrine, artérite, c'est-à-dire des artères des jambes en particulier qui vont s'obstruer, accidents vasculaires cérébraux. Par exemple, ce qu'on regarde actuellement, c'est qu'une personne de moins de 40 ans qui fait un infarctus du myocarde, eh bien, la plupart du temps, c'est une personne fumeuse. Il y a d'autres facteurs de risque, mais le tabac est en particulier responsable de l'infarctus des sujets jeunes. Et puis, troisième catégorie, les maladies respiratoires chroniques dont je parlais tout à l'heure, la BPCO, en particulier bronchopathie chronique obstructive. C'est un terme barbare, mais c'est un peu ce qui désigne les gens qui sont malades des poumons à cause du tabac. C'est pas du cancer, mais ça tue à petit feu, avec des gens qui sont de plus en plus étouffés, qui toussent, qui crachent, font plus souvent des infections pulmonaires, donc ça fait baisser la qualité de vie. À côté de ça, vous avez des tas de choses qui sont impactées par la consommation de tabac, notamment par exemple femmes et tabac. Il faut savoir que le fait de fumer en prenant la pilule augmente le risque d'accident vasculaire, tant au niveau des artères qu'au niveau des veines. Donc ça, c'est déconseillé. Femmes et tabac, toujours, le fait de fumer diminue la fertilité féminine. Et puis, donc, il y a plus de difficultés à avoir des enfants. Et après, une fois qu'on est enceinte, il y a plus souvent un risque de fausse couche, un risque d'accouchement prématuré, enfin, un risque de complications de la grossesse, un risque d'enfant avec un petit poids de naissance, un risque de mort subite du nourrisson. Et les nourrissons qui sont exposés in utero et qui sont exposés passivement au tabagisme de leurs parents ont plus de risques. C'est avec la position couchée sur le ventre, la première cause identifiée de mort subite du nourrisson. Donc il y a des conséquences graves. Et puis, nous, ce que décrivent les patients, c'est des choses peut-être moins graves, mais qui les embêtent au quotidien. Pour les femmes, ça va être une altération du teint, ça va être les dentistes qui nous disent que ben voilà, il y a des taches sur les dents, qu'ils n'arrivent pas à mettre des implants parce que ça ne tient pas, parce que le fait de fumer, ça perturbe la microcirculation au niveau de la gencive. Ça pose des problèmes de cicatrisation. Ça pénalise un peu les gens qui ont des interventions chirurgicales. Le fait d'arrêter de fumer, ça améliore le pronostic d'une opération. Et puis, bien sûr, je dirais, ça, c'est pas les maladies, mais il y a le coût du tabac qui vous plombe le porte-monnaie, sûrement.
Outre ces maladies, la consommation de cigarettes peut être accompagnée d'une dépendance. Cette dépendance est-elle physiologique ou psychologique, ou les deux ? Et comment se manifeste-t-elle ?
Alors, les deux, bien sûr. Dans toute dépendance avec un produit, il y a toujours les deux aspects. La dépendance physiologique, que l'on appelle pharmacologique ou dépendance physique, elle est directement liée à l'action de la nicotine, qui a la possibilité de modifier le système nerveux, enfin le fonctionnement cérébral, en faisant croire qu'il est aussi indispensable de manger de la nicotine que de manger, boire. Voilà. Donc, les propriétés d'une drogue, c'est de faire croire à notre organisme qu'elle est aussi indispensable que les besoins normaux et physiologiques qui sont mangés, boire, respirer, etc. Voilà. Et toutes les drogues agissent par un même système qui s'appelle le système de récompense, qui est normalement un système qui est fait pour assurer la survie de l'espèce. Le système de récompense, c'est ce qui fait que quand vous mangez, alors que vous avez faim, vous avez plaisir à manger. Et même quelquefois, quand on a vraiment très faim, on dit « je mangerai n'importe quoi ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un besoin intense de quelque chose de physiologique qui est interprété comme indispensable, et la satisfaction de ce besoin va procurer du plaisir. Et la mémoire de ce plaisir fera que la prochaine fois que j'ai faim, je vais me mettre en quête de nourriture pour retrouver ce plaisir que j'ai. Voilà. Et donc, une drogue, elle va parasiter ce circuit-là, ce circuit de la récompense. Alors, pour le tabac, en plus, on a une idée assez précise parce que la nicotine, en fait, on sait comment elle active le circuit de la récompense. Elle va elle va se fixer sur des récepteurs au niveau du cerveau qui, lorsqu'ils vont être activés, vont entraîner la sécrétion de dopamine, qui est une hormone liée à la sensation de plaisir. Voilà, donc ça, c'est le côté physiologique. Qui dit dépendance, dit manque quand il y a absence du produit. Et le manque, c'est une des manifestations, justement, de la dépendance. Quand les gens ressentent du manque, il n'est pas très caractéristique, il est beaucoup moins spectaculaire que quelqu'un qui en manque d'alcool ou d'héroïne, par exemple. Mais si, quand on rencontre un fumeur qui n'a pas fumé depuis longtemps, il y a quand même des choses relativement dominantes, comme par exemple l'irritabilité. Un fumeur qui n'a pas fumé depuis longtemps, il ne faut pas trop le chercher. Beaucoup de patients, par exemple, décrivent, voilà, moi j'ai arrêté de fumer, ça a tenu 3 jours. Au bout de 3 jours, c'est ma femme ou c'est mon mari qui m'a redonné mes cigarettes tellement j'étais insupportable. Voilà, donc l'irritabilité. Mais on peut avoir aussi des troubles du sommeil, une augmentation de l'appétit. On peut avoir une certaine anxiété aussi. Voilà, des signes suffisamment désagréables pour entraîner la rechute. Et puis, il y a les aspects non pharmacologiques, que vous diriez psychologiques. Et là, il y a 2 choses. Il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler les conditionnements à fumer. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on fume, c'est pas comme ça dans l'espace intersidéral. Quand on fume, c'est à une heure précise, dans un endroit précis, dans une situation précise. Et il y a un certain nombre de situations qui sont très étroitement liées à fumer. Ça dépend des fumeurs, mais par exemple, beaucoup de fumeurs ont ce que j'appellerais le conditionnement café-cigarette. C'est-à-dire que c'est la pause café, je vais prendre ma cigarette. Ou voiture-cigarette. C'est-à-dire que quand on est au volant de la voiture, qu'on a un feu rouge, automatiquement, on allume une cigarette. Téléphone-cigarette. Je me mets à bosser devant mon ordi, cigarette. Je fais la fête, cigarette. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on a tellement pris l'habitude de fumer que ça devient un tout. Et donc, lorsque j'arrête de fumer, dans ces moments-là, forcément, la pensée de cigarette va me venir. Voilà. C'est des conditionnements, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis à la naissance, qui est inné à la naissance. Je n'ai pas avec, à chaque fois que tu boiras ton café, tu fumeras une cigarette. Je l'acquiers. Et c'est un apprentissage. Et c'est intéressant pour nous de connaître les conditionnements de la personne, parce que même si la personne n'est pas prête à arrêter de fumer, on peut déjà travailler sur certains conditionnements. Par exemple, je ne suis pas prêt à arrêter de fumer complètement. Mais je suis d'accord pour ne plus fumer dans ma voiture. Et puis, il y a un autre aspect dans la dépendance psychologique, c'est, on va dire, la relation très personnelle, peut-être parfois même affective, que le fumeur a avec ses cigarettes. Ce que la cigarette représente pour lui. Les effets qu'elle lui procure, les fonctions qu'il a données à la cigarette. Par exemple, pour un même fumeur, on va avoir une cigarette qui va avoir une fonction de réveil matin, si je n'ai pas fumé, je suis glauque, et de somnifère, c'est-à-dire que le soir, si je n'ai pas ma dernière petite cigarette, je ne dors pas. Donc c'est assez paradoxal, un produit qui vous réveille et qui vous endort, ou un produit qui favorise vos relations sociales et un produit que vous utilisez pour vous mettre dans votre bulle. Un produit qui vous aide à vous concentrer et un produit que vous prenez pour vous vider la tête après avoir bossé, etc. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas uniquement une histoire chimique là-dedans. Il y a aussi que le fumeur a donné, par l'usage, des fonctions à sa cigarette, la fonction anti-stress, etc. Et au moment d'arrêter, il peut craindre de manquer d'un outil qui était un peu un outil, c'est comme un couteau suisse, quoi, un multifonction. Voilà, ça c'est la dépendance tabagique. Donc le manque va se manifester soit physiquement, je l'ai déjà décrit, mais le manque psychologique, ça va se manifester d'une part par une crainte d'arrêter de fumer, parce qu'on redoute d'être déstabilisé psychologiquement à l'arrêt du tabac, parce que la cigarette me servait à me remonter le moral, me servait à me stimuler, etc. Donc on peut avoir à l'arrêt des déstabilisations. On peut avoir à l'arrêt des prises de poids liées au fait qu'on a un manque qu'on va essayer de combler par autre chose, mais aussi on arrête la nicotine et la nicotine permet d'augmenter le métabolisme, d'augmenter la dépense calorique. Et donc si vous arrêtez la nicotine, votre dépense calorique va être moindre. Donc, ce que vous mangez, ça va davantage vous profiter. Voilà, donc ça, c'est les effets qu'on peut avoir à l'arrêt du tabac.
From your eyes, it's making you blue, and it's burning down your thighs. A cotton riot in your ear, still you want to be too. Post-party stress disorder. nothing you can do but count your coins and get your coat. A cloud of dry ice in your head, still you want to be too.
C'était Burning House avec Post Party Stress Disorder. De retour avec le docteur de Bournonville, médecin tabacologue. Après avoir évoqué les conséquences du tabac sur la santé, quels peuvent être les recours possibles si on souhaite arrêter de fumer ?
Le premier recours, c'est d'essayer tout seul. Il faut savoir que la majorité des gens qui réussissent à arrêter de fumer, c'est tout seul qui s'y arrive. Donc, il ne faut pas rester non plus catastrophé. Ensuite, si on n'y arrive pas tout seul, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller voir son médecin traitant, d'aller voir son pharmacien, de s'inscrire sur un forum d'aide à l'arrêt du tabac. Il y en a un que j'aime bien, moi, qui s'appelle stoptabac.ch. qui est un site suisse en fait, mais avec un forum très alimenté, et donc on peut toujours trouver des gens qui ont notre profil. Et puis, si vraiment c'est difficile et que tout ce qu'on a essayé, ça marche pas, à ce moment-là, on a peut-être besoin d'une aide un peu plus personnalisée. Et c'est là que c'est peut-être intéressant d'aller voir un tabacologue. Après, le tabacologue ou le médecin traitant ou le pharmacien ou le forum va proposer différents méthodes, moyens, outils pour arrêter de fumer. La question, c'était peut-être ça.
Justement, j'allais y venir. Quels sont les différents traitements qui existent et que doit-on en penser ?
D'accord, on va mettre d'un côté les traitements validés pour l'arrêt du sevrage et de l'autre côté les traitements non validés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas assez d'études pour montrer leur efficacité ou alors les études ne sont pas sérieuses. Les traitements validés, ce n'est pas compliqué, il y en a trois. Il y a la substitution nicotinique, c'est-à-dire en fait on va donner de la nicotine mais dégager de la fumée de cigarette en sachant que la nicotine toute seule, c'est pas toxique, c'est la fumée qui va avec, qui provoque le cancer, les maladies respiratoires, etc. Donc c'est des traitements qui ont une très bonne sécurité d'emploi, qui n'ont aucune contre-indication. Donc dans la substitution, vous avez effectivement des patchs à la nicotine, vous avez aussi de la nicotine qu'on va prendre à la demande, c'est-à-dire c'est le fumeur qui décide quand il la prend, donc là c'est pas des patchs, ça peut être des pastilles à sucer, des gommes à mâcher, ça peut être des pastilles à laisser fondre sous la langue, ça peut être un inhaleur qui est une espèce d'embout dans lequel on insère une cartouche qui contient sur un petit tampon d'ouate de la nicotine liquide, et donc ça va avoir la même efficacité qu'une pastille à la nicotine. Et puis enfin, qui est sorti cette année, le spray buccal de nicotine, qui est un petit appareil comme ça, que le fumeur se pulvérise dans la bouche à chaque envie de fumer, et qui va permettre d'apporter rapidement la nicotine. Je dis rapidement, mais pas aussi rapidement qu'une cigarette. La cigarette, c'est vraiment un shoot. Voilà. À côté de ça, vous avez des médicaments qui ont été conçus pour l'arrêt du tabac. Il y en a un qui commence à dater un peu maintenant, qui s'appelle le Zyban. La molécule, c'est bupropion, qui a l'inconvénient d'avoir beaucoup de contre-indications et des effets secondaires potentiellement graves. Donc, il n'est pas très pratique. Donc, en fait, on ne l'utilise pas beaucoup. Moi, j'utilise presque plus, sauf pour des gens qui l'ont déjà utilisé, qui étaient très contents avec ça, qui veulent que ça. Et puis, le Champix, la molécule, c'est la varenicline. C'est un cousin de la nicotine, c'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup en forme à la nicotine et il a des actions qui sont proches, qui vont faire qu'il va pouvoir soulager le manque. Et il a une action complémentaire qui est d'empêcher la nicotine d'agir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous Champix et qui fume, la nicotine ne pouvant pas agir, va pas ressentir lorsqu'il fume les effets auxquels il s'attendrait s'il n'avait pas ce médicament. Alors, après, comme n'importe quel traitement, il y a des gens à qui ça fait ni chaud ni froid, et puis il y a des très bons répondeurs. Mais en gros, ça se traduit chez les gens qui répondent bien par « voilà, quand je fume, ça ne fait pas comme d'habitude ». Donc ça peut aller jusqu'à une sensation bizarre et inhabituelle qui ne renforce pas du tout l'envie de fumer. Ça peut être aussi une perte du plaisir à fumer, voire carrément un dégoût de la cigarette. Et c'est vrai que moi, j'ai quelques patients sous Champix qui ont ça, qui sont très contents d'avoir ça. C'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires pas graves, comme les nausées ou un sommeil un peu haché, et qui a de rares effets secondaires graves qui font que, comme n'importe quel traitement, quand on va prescrire le traitement, on va prescrire la surveillance qu'il y a avec. Voilà. Il y avait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, il y a eu des personnes qui ont eu notamment des compensations psychologiques sous Champix. Mais le peu de cas qui ont été décrits par rapport aux millions d'utilisateurs de Champix ont fait que ce traitement n'a pas été retiré du marché. On maintient le fait que quand on prescrit, il faut être sérieux et prescrire la surveillance qui va avec. Mais il n'y a pas de raison de l'interdire. À côté de ça, vous avez les traitements qui ne sont pas validés, que tout le monde a essayé, l'acupuncture, l'homéopathie, l'hypnose, voilà. Je ne mettrai pas tout à fait tout dans le même panier, simplement je dirais qu'ils n'ont pas fait définitivement la preuve de leur efficacité. Cela dit, mon attitude, moi, je ne les pratique pas moi-même, mais mon attitude est de surtout pas décourager les gens de les utiliser, parce que si une séance d'hypnose ou une séance d'acupuncture peut faire qu'une personne va faire une tentative d'arrêt, en ayant davantage confiance dans sa capacité à arrêter, ben que ça soit lié à simplement ce qu'elle s'imagine que ça marche, qu'elle y croit, ou que ça soit lié à un réel effet de la méthode, on s'en fout, parce que ce qui est important, c'est le résultat final, c'est-à-dire que la personne va pouvoir faire une expérience d'arrêt confortable. Voilà. Donc c'est un peu ça mon attitude par rapport à ces on va dire, traitement non validé. Il y a d'autres traitements qui sont efficaces et qui ne sont pas des médicaments. C'est une forme particulière de psychothérapie qui s'appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qui nécessitent d'être bien formées. Donc, nous, on travaille un peu comme ça. C'est d'abord repérer avec la personne tout ce qui la lie avec la cigarette. Repérer aussi tout ce que représente la cigarette pour elle. L'image d'elle-même en tant que fumeur et l'image qu'elle n'arrive pas à se faire d'elle-même en tant que futur ex-fumeur. Donc ça, c'est plus la partie cognitive. Et comportementale, c'est voilà, comment on va accompagner la personne dans le changement. Quelles sont, par exemple, les situations à risque pour elle de fumer. Comment on va aller trouver ces situations et comment on va y faire face. Par exemple, voilà, c'est ma première soirée, j'ai arrêté de fumer. Il y a tout le monde qui fume autour de moi, qu'est-ce que je fais ? Donc on va ensemble, c'est vraiment une collaboration, cette thérapie-là, imaginer et puis mettre en pratique différentes stratégies pour faire face à telle ou telle situation.
Justement, y a-t-il une différence entre le sevrage tabagique avec l'apport de nicotine et le comportement ? Parce que certaines personnes parlent par exemple que finalement c'était le geste qui leur importait.
Alors, il y a toujours les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si on fume du tabac et pas, vous avez chez vous de la verveine bio, vous la mettez dans du papier à cigarette et vous la fumez. Il y a personne qui fait ça. Parce qu'il y a quelque chose dans la fumée de cigarette qui fait que c'est vers ça qu'on se tourne. Au départ, quand on commence à fumer, c'est pour plein de raisons qui sont propres à l'adolescence, parce qu'en général, c'est à l'adolescence, enfin, dans plus de 90% des cas, c'est à l'adolescence qu'on commence à fumer. Si ce comportement il est maintenu après, c'est parce qu'il est renforcé par la nicotine. Donc, quand quelqu'un arrive avec un problème de dépendance, il est toujours à double composante. Il y a des personnes chez qui la partie physique est prédominante. En général, c'est plutôt les vieux fumeurs, c'est-à-dire pas forcément qui sont vieux en âge, mais qui fument depuis longtemps, et les fumeurs qui ont des addictions associées, parce que, par exemple, le fait d'avoir une addiction à l'alcool, une addiction au cannabis, ça va renforcer la dépendance tabagique. Souvent, là, il y a une dépendance physique prédominante que nous, on va évaluer, hein, et dans ces cas-là, c'est particulièrement nécessaire d'avoir un traitement spécifique pour la dépendance physique, par exemple la substitution nicotinique, par exemple le Champix, voilà. Et puis il y a d'autres personnes chez qui la dépendance comportementale, dont le geste, va être prédominante. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre de traitement de substitution en route, mais ça veut dire qu'on va travailler peut-être plus particulièrement sur les aspects comportementaux, sur les conditionnements, sur l'image de la cigarette, etc.
La première partie de cet enjeu de santé consacré au tabac touche à sa fin. Que vous soyez fumeur ou non, Enjeu de santé espère avoir répondu à quelques questions que vous poseriez. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et des infos complémentaires sur radiocampusrennes.fr. Bonne journée à tous et à la prochaine sur RCR.